Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravisha Yassayag. C'était Baba Metzia, page 104, DAF Kouf Dalet.
Bonjour à tous, c'est DAF est clair, Baba Metzia Kouf Dalet. Demande la Gemara quand il est marqué dans la Mishnah que si jamais il a dit qu'il voulait louer ce Bet HaShlachim, si jamais au final la source s'est asséchée, il peut demander à ce que la location soit réduite. Et pourtant, on l'a vu dans 3 ou 4 figures où il a demandé à louer ou à acheter tel endroit, par exemple un Pardès, ou par exemple un Kerem, ou alors un endroit qui s'appelle Betcourt. L'appellation est suffisante même s'il n'y a pas tous ces détails-là. Pourquoi est-ce que la location pourrait être réduite? Mais Jagma, ça dépend en vérité qui a donné cette précision. Si c'est le vendeur qui a donné cette précision, eh bien c'est l'appellation, mais si c'est l'acheteur ou le locataire, lui il te dit « Attends, moi j'ai acheté que si c'est comme ça, sinon non ». Agmar donne une autre réponse. Quand il se trouve dans l'endroit et qu'il précise « ce Bet HaShlachim », à quoi ça sert de préciser? Alors tu aurais pu dire seulement « cet endroit ». Si tu précises « ce Bet HaShlachim », c'est que tu veux préciser lui et son bonus, c'est-à-dire le fait qu'il y a une source ou autre. La Mishnah nous enseigne que celui qui reçoit un terrain pour le travail et qu'au final il ne l'a pas travaillé, il sera rêve de payer des dédommagements, comme il s'est engagé dans le shtar. Rabbi Meir, celui qui était d'Oresh Lachon Idiot, comme c'est marqué dans le Mishnah. Rabbi Uda aussi, il a fait qu'un homme qui s'est engagé au moment de son mariage à payer, à entretenir sa femme, il devra payer aussi tous les korbanot qu'elle est censée payer en tant que korban Ashir. Il a la Zaken aussi. Il est marqué qu'il y avait les gens d'Alexandrie qui mariaient leur femme et au moment de rentrer sous leur roupa, elles étaient kidnappées et puis elles avaient des enfants avec d'autres. On aurait pu que les Chachamim auraient voulu considérer les enfants comme Amzerim, mais dans la Touba, il s'est avéré qu'il était marqué qu'elles seront mariées le jour de la Choupa. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, elles n'étaient pas mariées. Donc les enfants n'étaient pas mariés, mais même Amzerim. Rabbi Yehoshua ben Kocham, lui aussi, était d'Oresh Lachon Idiot, puisque le Malvé, qui a reçu un gage de la part du Lové, n'a pas le droit de prendre plus que la dette, parce que quand il lui rendait ce gage, le Lové lui écrivait un shtar dans lequel il s'est engagé à rembourser sa dette de ce gage, et si jamais le gage valait plus, eh bien, il va s'avérer que le malvé a reçu plus. Devant la Gemara, quoi, c'est qu'à cause de ça. Et quoi qu'il en soit, le malvé connaît le mashkon comme il est marqué. Que si jamais le lové est décédé, eh bien le mashkon ne sera pas hérité. Il sera propriété du malvé. Donc on voit que le malvé est gové directement. Jagma, tu as raison. Le shtar qu'on écrit, c'était au cas où le mashkon perd de sa valeur. Avi aussi le cité d'Oresh Lachon Idiot, puisqu'il est marqué que dans la clouba, si jamais c'était marqué une évaluation exacte de la dot, c'est ce qu'on donnait, mais s'il y avait marqué plus, alors on était gové moins. En Erbelay, on était gové même un tiers. Marimar a écrit à Saphir beaucoup plus, alors on lui a dit « tu veux faire un kinyan ?» Il a dit « non, si vous voulez faire un kinyan, eh bien, je m'engage en moins, si vous voulez pas faire de kinyan, je m'engage en plus. » C'est-à-dire que c'était un engagement qui était fait de manière habituelle, mais c'était quelque chose qui n'engageait en rien. Un homme a demandé à ce qu'on écrit donne à sa fille 412 pour sa ktouba. On savait pas si c'était 412 de manière effective et donc à écrire 800, au contraire c'était 400 à écrire, donc c'est que 200. Alors Abashi a dit ça dépend. Si il a dit de donner, alors on considère que c'est 400 qui sont égales à 800, mais s'il a dit d'écrire, alors c'est 400 qui sont égales qu'à 200. Ou alors, autre lecture de Abashi, s'il a dit lektubata, alors c'est 800, mais s'il a dit Bektuvata, c'est 400. Vous avez moi, ça changeait. À partir du moment où il a rappelé la Ktuba, on comprend que c'était autour de la Ktuba à écrire, et donc c'est que 200. Et quand, c'est seulement quand il a dit Stam que ça serait 400, que ça serait 800, pardon. Un homme qui s'est engagé à travailler un terrain, et il s'est engagé, si jamais il ne le travaillait pas, il paierait 1000 zouz. Rava nous a dit que, puisqu'il avait exagéré, c'était Asmarta Be'alma, et c'est pour cela qu'il n'est pas chayav de payer. Contrairement à Mishnah, il n'avait pas exagéré, et là-bas, ce n'est pas une Asmarta. Demande la Gemara. La Gemara nous ramène que si jamais un homme s'était engagé à travailler un terrain et faire du soum-soum, au final, il a fait du blé, et le prix est arrivé à égalité avec le soum-soum, ce qui fait que le Baal-Abaït, le propriétaire de la terre, a gagné, puisque la terre était moins affaiblie. Afkana pensait que le propriétaire devrait prendre un peu moins de ses pourcentages. Et Ravashi n'a dit pas du tout. Il y a un proverbe qui dit qu'il vaut mieux que ce soit la terre qui soit affaiblie plutôt que mon compte en banque. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai gagné. Et alors, mais moi, je préfère ne pas perdre en volume de récolte. Agmar nous dit que si jamais il s'était engagé à faire du soum-soum et qu'il a fait du blé, le blé a gagné plus, il y avait une avamina de croire que celui qui avait fait du blé gagnerait plus tout ce bénéfice, mais on refute puisque c'est la terre qui a développé ça. Donc il partage à égalité, c'est-à-dire avec les mêmes règles que le reste de l'engagement. Iska, quand je donne de la marchandise à un X et je lui dis voilà, travailler, on partage. Quand il y a des gains, c'est 2/3, 1/3. Quand il y a des pertes, c'est 50-50. On dirait la Gemara que quand on a donné ce titre-là de Iska, c'était en vérité autant bénéfique pour le levé, autant bénéfique pour le malvé, puisque les deux sont protégés en cas de perte. Maintenant qu'on on a défini ça comme malvé et picadon, eh bien, milvé et picadon, eh bien, celui qui a reçu cette marchandise, il peut s'y utiliser à des fins personnelles. Alors, il ne dit pas du tout, c'est pour ça qu'il s'appelle Iska, pour lui dire qu'il est obligé de l'investir et non pas de l'utiliser à des fins personnelles. Abdi Barabin nous dit que si jamais cette personne qui a reçu est décédée, eh bien, cette partie-là est perdue pour l'investisseur, puisque c'est défini comme un prêt, les métalités ne sont pas méchoubadis, mais je dirais au contraire, c'est pour ça qu'il s'appelle Iska.
pour dire que ça n'est pas englouti dans l'héritage, ça n'a pas les règles de Metaltelin. Autre chose que nous a dit Rava, dans ce genre de Iska, si on a séparé la marchandise en deux shtarot, on fera le calcul des pertes d'un côté et des gains de l'autre. Et ça sera bénéfique pour le travailleur et mauvais pour l'investisseur. Mais si on a fait, au contraire, un shtar, donc on a tout considéré en même temps, donc le calcul il est à faire deux tiers, un tiers. Donc dans ce cas-là, ça sera bénéfique pour l'investisseur. On va résumer maintenant ce qu'on a vu. La première chose qu'on a vue, c'est que quand on vend quelque chose avec une appellation, c'est ce qui est vendu, sauf si c'est l'acheteur qui a demandé. La deuxième chose, c'est que s'il se trouve dans le champ et qu'on a précisé l'appellation, c'est forcément que c'est pas qu'une appellation, c'est une condition. On est d'orèche la chaîne idiote quand on voit que celui qui s'engage à payer si jamais il n'a pas travaillé, sauf s'il a cet engagement, un engagement qui était exagéré. Les femmes qui étaient mariées, Kiddushin, et après il y avait la Choupa, et dans le shtar c'était marqué, dans le shtar de la Ktouba c'était marqué le jour de la Choupa, donc on considère qu'elle n'était pas mariée. Un gage, tant que il est interdit de prendre un gage qui dépasse la valeur de la dette, puisqu'au final, ce qu'il marque dans le shtar, sache que tu prendras de ce gage, donc il risque de prendre plus que ce qu'on lui doit. Dans les Ktoubot, il y avait une habitude d'exagérer un petit peu, ce qui fait que quand on est gové la Ktouba, eh bien on devrait prendre en considération cette exagération. S'il y a eu Kinyan du beau-père, c'est-à-dire engagement du beau-père sur l'engagement, là on considère que l'engagement est effectif. Si un père demande à ce qu'on donne à ses filles de l'argent, s'il demande simplement de l'écrire dans la Ktouba, c'est une exagération. S'il dit de lui donner lui, c'est pas une exagération. À partir du moment où il rappelle la Ktouba, quoi qu'il en soit, c'est une exagération. Si jamais il a planté du soum-soum au lieu du blé au lieu du soum-soum, ce qui a été bénéfique pour le champ, tant mieux pour le balabaït, tant pis pour l'investisseur. Si il a planté du blé au lieu de soum-soum et ça a gagné plus, on partagera les gains en plus à égalité avec les autres pourcentages. Si jamais il y a eu Iska, c'est-à-dire je te donne une marchandise pour investir, Marloquette, est-ce que il a le droit de dépenser 50% de ce qu'il a reçu puisqu'on lui donne un statut de milva. Marloquette aussi sur ces 50%, si jamais il meurt, est-ce que ses enfants pourraient les hériter puisque Metaltelin. Et quand on a écrit ça en deux shtarot, eh bien on calculera les gains de chaque partie de manière différente et les gains de manière différente de la même, et les pertes de manière différente. Si on l'a écrit tout dans un shtar, on calculera le total. Daf et Klavo Hashem, et demain, Bezrat Hashem.